السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, chères sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, notre Créateur, qui nous donne la possibilité ce soir d'être réunis dans cette masjid pour célébrer le nikah de Asad et de Raïssa. Et ikhwani fillah, akhawati fillah, célébrer un nikah, c'est une sunnah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est également la tradition de l'ensemble des prophètes et des envoyés qu'Allah a donc envoyés sur ce dunya. C'est également une action qui est aimée par Allah Azza wa Jal, et c'est une action qui permettra au mari et à la femme de compléter le iman. C'est-à-dire, mon cher Asad, ce soir après ce nikah, inshallah, tu as une garantie de protection de ta foi qui va augmenter. Et cela n'est possible que par les liens du nikah. Chers frères en islam, nos cœurs doivent être remplis de joie ce soir lorsqu'un de nos jeunes, un de nos petits frères, un de nos enfants, un de nos frères en islam, un ummati, se marie, et donc il y a un nikah, parce que c'est toute la umma, c'est toute la communauté qui avance. Et c'est toute la communauté qui concrétise un des objectifs, c'est de voir des familles s'unir, c'est de voir des couples se former. Des couples qui donneront lieu, inshallah, à des familles avec des enfants et des générations de personnes qui vont croire en Allah, qui vont aimer Allah et son prophète. Et de cette façon, nous faisons avancer le din. On va dire que c'est une des façons les plus plaisantes, mais ça fait partie également de notre din que de vivre ces moments de joie. Et mon cher Asad, dans ce moment de joie, devant cette majlis, dans cet endroit béni, en ce mois de Sha'ban, en présence de ces personnages, des pieux, des ulama, des mashaïkh, des huffaz du Coran, nous demandons Allah Azza wa Jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Nous demandons, nous implorons Allah Azza wa Jal par ses noms, par ses attributs, qu'Allah Azza wa Jal t'accorde à toi et à ton épouse une vie exceptionnelle, magnifique, remplie de baraka, que jour après jour, vous éprouvez encore plus d'amour entre vous. Jour après jour, vous ressentez tout le bonheur qu'on peut concevoir dans une vie de couple, et que vous fassiez votre cheminement dans ces sentiments, mais également votre cheminement vers Allah Azza wa Jal, et que ce mariage soit également un motif de muhabba, renforcement d'amour et d'amitié entre deux familles et au sein de la umma d'une façon générale. Ikhwan fillah, chers frères en islam, quand on parle de mariage, on parle obligatoirement d'amour. Mais ikhwan fillah, le din, l'islam est une religion d'amour. Être musulman, c'est aimer Allah, on est d'accord, en premier. Être musulman, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être un musulman, c'est aimer ses parents. Hein, Assad, on est d'accord. Être un musulman, il faut me regarder. Être un musulman, c'est aimer l'ensemble de ceux qui ont la ilaha illallah, qui partagent notre foi. C'est aimer nos voisins, mais c'est également aimer les personnes qui ne partagent pas notre conviction, nos convictions. Aimer les personnes qui croient en Allah, mais également aimer les personnes qui ne croient pas en Allah, parce que ce sont des créatures d'Allah. Et c'est ce message profond d'humanisme qu'on a vraiment besoin de transmettre. Et quand on parle de mariage, c'est comme si que quand on parle de mariage, c'est là qu'on va se focaliser sur la notion de muhabba, d'amour, de mawadda, mais cet amour-là, il est omniprésent. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Madina Munawwara, parmi les premières choses qu'il a enseigné aux sahaba, c'est aimez-vous comme des frères. Ô muhajiroun, vous êtes les gens de Makkah, vous êtes venus d'une autre tribu. Vous savez, chez les arabes, l'appartenance, parenthèse, on aime bien, l'appartenance aux tribus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y avait une hiérarchie entre les tribus. Du coup, on ne parle plus de tribus, on parle de personnes qui viennent de villes différentes et qui ont des fonctions différentes à la société. Les gens de Makkah, ce sont des commerçants. Les gens de Médine, ce sont des agriculteurs, les spécialistes de date, des cultures différentes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va dire, toi qui viens de Makkah, Tu as été accueilli par cette personne qui vient de Madina. Je déclare que vous êtes des frères. Le premier message, c'était le message de fraternité. Le premier message, c'était de convaincre les trois tribus juives qui habitaient à Madina que vous habitez ensemble dans une même cité où il y a des musulmans, où il y a des tribus juives, où il y a des personnes qui étaient toujours polythéistes et d'autres croyances. Mais apprenons à vivre en paix. Et il y a eu ce fameux pacte de non-agression, c'est quelque chose qui est symbolique dans l'histoire des civilisations. Tout dans notre dîn commence à partir de l'amour et du muhabba. Et parmi les premiers enseignements que le prophète sallam a donné aux sahaba, c'est donner à manger aux gens. Ça, c'est quelque chose qui se perd à notre époque et qu'on se focalise très souvent sur les ibadas, sur les actes d'adoration, ce qui est très bien. Mais on oublie que le prophète alayhi salat wa salam a expliqué aux sahaba qu'il y a deux actions. Accomplissez ces deux actions, vous accéderez au paradis. Parmi ces deux actions, ce que nous on a retenu, c'est prier lorsque les gens dorment. Pour la prière, on répond présent. Nous sommes présents et c'est là une faveur de la part d'Allah. Mais le prophète a également dit, donnez à manger aux gens. Tadkhuluna al-jannata bisalam. Vous entrerez en paix au paradis. Et nous retrouvons ces bases aussi. On ne va pas faire tout le tafsir du Coran, mais on le retrouve également dans le début d'Al-Baqara. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Dans le yuqimuna as-salah, on retrouve quoi? La salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et qui donne de ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire, tu veux te rapprocher d'Allah, certes, que ce front se pose 5 fois par jour sur le sol. Mais tu ne te rapprocheras jamais d'Allah si ton cœur ne s'ouvre pas aux autres. Si tu n'invites pas des gens à manger chez toi. Si tu ne tends pas la main pour aider ton prochain. C'est ça le message universel de l'islam. Et ce soir, quand Assad se marie, ce sera l'explosion d'amour, Inch'Allah, de muhabba entre lui et son épouse, mais également entre deux familles. Et c'est toute la umma, comme on a dit, qui va avancer parce qu'une famille est en train de se former et qu'Allah, Rabbul Izzah, continue les doigts, qu'Allah vous garde sous sa protection. Pas besoin de faire bayan, les doigts sont amplement suffisants. Qu'Allah vous garde sous sa protection et vous accorde dhurriyatan tayyiba, des enfants qui seront la fraîcheur de vos yeux, qui auront l'amour d'Allah et l'amour du prophète dans leur cœur. Quand Assad se marie, quand Raïssa se marie, c'est comme si c'est notre petit frère, c'est notre petite sœur. Même si on ne les connaît pas, ça c'est le sens profond de l'appartenance à une umma. Et on leur souhaite tout le bien du monde, comme si c'était nos propres enfants qui se mariaient. Ainsi étaient les sahaba. C'est ce qu'on appelle la notion d'amour universel en islam. Aimer, antuhibba. Le hadith stipule, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadith de Bukhari. Personne n'aura atteint le vrai iman, le véritable degré de foi, tant qu'il n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui. Et ce genre de message, on le retrouve dans la religion catholique et dans les autres religions qu'Allah a révélées. Parce que ce message, c'est un message divin. C'est un message universel. Ainsi donc, Assad, est-ce que tu connais le sens du prénom de ta future épouse Raïssa? Ça veut dire quoi Raïssa? Tu ne connais pas? Demande-nous de beau-père. Raïssa, c'est celle qui dirige. Raïssa, c'est la patronne. Raïssa, c'est la gouvernante. Sérieux, hein? Et Assad, ça veut dire quoi? Le lion. C'est-à-dire, on a un mariage de super-héros ce soir. Des gens qui ont une forte personnalité. Mais que ces caractères, très souvent, vous savez, les prénoms ont une influence sur le caractère des gens. Mais on veut retrouver cette énergie Red Bull, permettez-moi, dans le droit chemin. Avec, mashallah, cette niaque qui se transformera, inshallah, en muhabba. Ainsi, Assad, pour clôturer, on va te rappeler 2 principes qui sont à la base du mariage. Pour qu'un couple tienne la route, comme il dit, pour qu'un couple avance avec sérénité, avec apaisement du cœur. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui vient vous dire que la vie est un long fleuve tranquille, c'est qu'il ne connaît pas la vie. La vie fait de haut et de bas. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas, et c'est l'organisation de notre Seigneur. Mais celui qui a un cœur habité d'amour pour Allah, il vivra toutes les situations de sa vie avec sérénité. Et c'est ce doua que nous faisons pour toi et pour ton épouse, qu'Allah vous accorde la sérénité. Là, il y a un terme en arabe qu'on ne trouve pas l'équivalent, le tama'nina. Le tama'nina, c'est en même temps l'apaisement du cœur, mais c'est en même temps un istislam, une soumission totale à Dieu, à Allah Azza wa Jal, et que tu sais pertinemment que toutes les situations de la vie, cela vient de la décision d'Allah, et tu t'en remets à ton Seigneur. Et celui qui arrive à vivre avec cette tama'nina et cette soumission à Allah, cette personne, mashallah, va vivre des jours avec une quiétude, une tranquillité du cœur. Et ça, cela n'est accordé qu'aux pieux, qu'Allah t'accorde cette qualité. La recette magique pour qu'il y ait muhabba au sein d'un couple, c'est bien sûr s'aimer. Je ne vais pas te faire de leçons sur le fait d'aimer ton épouse. Les jeunes sont plus à même de le faire. Le romantisme, c'est pour vous, pour nous aussi. Mais vous avez les versions les plus modernes du romantisme. Ce que l'on doit vous transmettre, c'est l'amour pour Allah. Un couple ne pourra réussir qu'à partir du moment où leurs décisions, leurs actions, leur vision de la vie de couple, leur vision de l'éducation des enfants, leur vision soit une vision qui se rapproche de celle voulue par Allah. Ce soit une vision comme le prophète alayhi salat wa sallam nous l'a enseigné. On faisait un cours, parenthèse encore, à des élèves, des lycéens, un cours sur le mariage, ça tombe bien. J'expliquais aux élèves que n'attendez pas le jour du mariage d'avoir l'épouse parfaite ou le mari parfait. Personne ne naît parfait. Personne ne peut se vanter d'avoir toutes les qualités nécessaires pour un mariage. Nous avons tous nos qualités, nos défauts. Mais ce qui est magnifique avec la vie de couple, c'est cette fusion de cœur, ce partage de culture et la possibilité de se renforcer. Trouve l'adjectif. Se renforcer, oui, mutuellement. C'était la condition pour accoucher le baïa. Donc on respecte. Se renforcer mutuellement, tout est une question d'échange. Dans le mariage, tout est une question de partage d'idées, de partage des valeurs, mais tout doit graviter autour de l'amour pour Allah et de l'amour pour le prophète alayhi salatu wasalam. Ainsi donc, dans ces 4 minutes, on te donne 3 cadeaux. 3 cadeaux, ce sont 3 versets du Coran. Et ces versets-là, ça doit être la base de votre vie de couple. Il n'y a pas besoin de grands discours, de grandes explications. Ce qui est important, c'est que le croyant avance sur ce qu'on appelle le sirat al-mustaqim. Ce que nous demandons, Allah ihdina as-sirat al-mustaqim, et on le demande combien de fois par jour? Avancer sur le droit chemin, c'est avancer avec des bases. C'est avancer avec des bases. Première base, rappelle-toi, et n'oublie jamais, Assad. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains uniquement, je les ai créés uniquement pour mon adoration. N'oublions jamais, c'est valable pour nous tous, un rappel pour nous tous, n'oublions jamais qu'Allah nous a créés. Allah nous a envoyés de ce monde, de ce dunya, pour faire son adoration. C'est l'objectif de ma création. Et si mon front se pose 5 fois par jour devant mon Seigneur, si je jeûne mon Ramadan, j'accomplis mon Hajj et je fais l'ensemble des bonnes actions qu'on ne va pas citer, je concrétise le but pour lequel Allah m'a créé. C'est compris ? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Deuxième verset, deuxième cadeau. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur. Tafsir, les savants disent, ce verset rappelle que l'adoration d'Allah doit être quelque chose de permanent. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vienne. C'est-à-dire que le croyant, dans sa relation avec Allah, Azza wa Jal, il se soumet à Allah. Et il prend conscience que j'ai été créé pour son adoration, mais cette adoration-là n'est pas limitée par une période de l'année. Ce n'est pas une question de Ramadan. Ce n'est pas une question que je vais au Hajj, donc je vais avoir le meilleur comportement du croyant pendant le Hajj. Ce n'est pas une question de Mecca ou de Madina. C'est un engagement envers Allah. Et cet engagement-là se concrétisera à partir du moment où le croyant prend conscience de ce qu'on appelle, ça c'est un mot-clé, du muraqabatullah. Le muraqabatullah, c'est la prise de conscience qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend à tout instant. Et qu'Allah alimu bidhatis sudur, Allah sait ce qu'il y a de mon cœur. Ainsi, le croyant intelligent, c'est celui qui ne fait pas un pas sans se poser la question, est-ce qu'à cet instant T, Allah est satisfait de moi? Il ne prend pas une décision sans se poser la question, est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce qu'Allah agrée cette action? Est-ce que la décision que je prends, dans la façon que je me marie, dans la façon que je vais éduquer mes enfants, dans la façon dont je vais exercer ma profession de commerçant, quelle que soit la profession, est-ce que, à cet instant T, Allah est satisfait de moi ou non? Parce qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas une troisième alternative. Soit l'action, elle est conforme à ce qu'Allah attend de nous, ou alors elle n'est pas conforme. Et en prenant conscience de ça, ça nous permet d'aboutir vers le troisième verset. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ il Allah. Craignez ce jour où vous serez ramenés vers Allah. Ainsi donc, cela donne un sens à l'objectif de ma création. J'ai été créé pour l'adoration d'Allah. Cette adoration n'a pas de limite dans le temps. Et cela doit perdurer jusqu'à ma mort. Pourquoi? Parce qu'un jour, je retourne auprès de mon Seigneur. et c'est mon Seigneur qui va me juger. Ce ne sont pas les gens qui te jugent. Là, wallah, les personnes qui t'encouragent, qui te conseillent, qui te guident dans ce monde, ces personnes-là, le jour de Qiyamah, ne sont pas à tes côtés. Celui qui nous juge, c'est Allah Azza wa Jal. Ainsi, nous avons là la réaction intelligente du croyant. Cette prise de conscience, ça fait toute la différence entre quelqu'un qui pratique de façon traditionnelle, parce que l'il a appris madressa, parce que papa, maman, dada, nana, ils m'ont appris telle chose. Il n'y a pas de mal à le pratiquer de cette façon. Mais on a besoin de croyants intelligents qui ont une prise de conscience et qui donnent un sens à leur pratique de la religion. Ainsi, c'était là les trois cadeaux qu'on devait te donner. Mais l'emballage et les rosettes et ainsi de suite, ça vient avec. On te donne, on te fait une proposition de projet de vie spirituelle. Premièrement, les cinq sont là. Ça, c'est valable pour nous tous. C'est un rappel pour nous tous. Pour que la vie de couple soit bercée par la baraka. C'est quoi la baraka? La bénédiction d'Allah. Et quand Allah t'accorde la baraka, ce n'est pas une question d'avoir une villa ou un studio, ou de rouler dans telle voiture, ou d'avoir tel revenu ou tel revenu. Quand Allah t'accorde sa baraka, sa bénédiction, quand Allah inonde une famille de sa clémence, ce sont des gens qui vont vivre heureux, avec ou sans les moyens. Parce qu'ils sont pris en charge par Allah. La clé, ce sont les cinq salats. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle « Awwalu ma tus'alu anhu l'abdu yawm al-qiyamati min amalihi as-salat ». Et là aussi, on a besoin d'intelligence. Je fais namaz, pourquoi? Ce n'est pas « je fais namaz parce que tout le monde fait namaz ». Ce n'est pas « je viens à la masjid parce que Ramadan, il faut venir à la masjid ». Ce n'est pas une question qu'il faut. Ce n'est pas une question que j'ai été habitué à ça. Ce n'est pas une question que j'ai toujours appris comme ça. Ce n'est pas une question que c'est ma culture ou ma culture ou peu importe. C'est une question d'engagement spirituel. Le prophète nous rappelle, c'est là qu'on voit, on a besoin de croyants intelligents qui pratiquent avec compréhension. Le prophète nous rappelle dans ce hadith, « Sachez aux musulmans que le jour de Qiyamah, la première chose à propos de laquelle vous serez interrogé, questionné par Allah, ce seront vos cinq salats. » C'est-à-dire que si les cinq salats étaient présents toute ma vie, toutes les étapes de l'au-delà vont se dérouler avec grande facilité. S'il manque une seule salat, le prophète le promet, ce sera difficulté sur la difficulté qu'Allah nous protège. Ainsi, conseil pour ta spiritualité, mais également pour la baraka de la vie de couple, les cinq salats, tant pour toi que pour ton épouse, Inch'Allah. Idéalement, le tahajjud, idéalement, les savants donnent ce conseil, il n'y a pas une action qui renforce autant le muhabba au sein d'un couple que de jeûner, mais pas Ramadan, tout le monde jeûne Ramadan, le lundi et le jeudi, les carèmes qui sont en nafil, c'est une sunna de Prophète sallam. Un couple qui se réveille pour jeûner le lundi et le jeudi, je vous assure, et j'en prends la garantie à Assad, tu me feras un retour d'expérience. Le soir, au moment de la rupture du jeûne, il y a un muhabba qui s'installe au sein de ce couple parce que c'est une journée où on s'est privé pour Allah. Et c'est là qu'on trouve la baraka. Le mois de Ramadan, ce sera l'occasion par excellence pour vous exercer au jeûne, mais qu'on garde à l'esprit, jeûner le lundi et le jeudi, ça amène énormément de muhabba, d'amitié au sein du couple. Et troisième conseil, se ressourcer spirituellement. Le gros problème dans notre communauté, au-delà des infrastructures, au-delà de tout ce que nous avons et que beaucoup n'ont pas, c'est que nous avons arrêté depuis très longtemps d'apprendre la religion. Notre dernier apprentissage, notre dernier sabbat, c'était quand on a fait katam avec Moulissab. Notre dernier cours de sirat, de haqaï, de masla, c'était en classe 11 ou en classe 12 à la madrasa basse. C'est-à-dire depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne réactualise pas mes connaissances de la religion. Il est essentiel, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, avec les tentations, les péchés, un monde extrêmement complexe, un monde absorbé par la mondialisation, on veut une pensée unique, il est essentiel de se ressourcer spirituellement. La femme du côté des ta'alim et des madarasa qui existent, même par internet, on peut écouter, c'est possible. Et les messieurs, il y a des assemblées religieuses. Ça, c'est la clé pour la vie spirituelle, pour que le cœur ne meure pas, pour que ne sombre pas dans la routine. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui vient accomplir ces cinq salats et qui ne sait même pas différencier Zohor de Asar, de Isha et qui ne réalise pas l'importance de ces tijdas. Il le fait depuis 35 ans, même s'il a un tâche namaz qui est impressionnant. Mais la personne a perdu la saveur de ses prières. Qu'est-ce qui nous permet de recomprendre la prière? C'est de se connecter avec Allah par le biais de la connaissance religieuse et essentiellement par le tafsir, par l'étude des versets du Coran. Ça fait vivre les cœurs et on a besoin de cœurs vivants. Et dernier point, c'est encore un dernier. Là, on avait dit se ressourcer spirituellement et là, c'est se renforcer spirituellement par le dhikr Allah. Il faut se fixer un quota de dhikr, tant pour l'homme que pour la femme. Ça peut être à la maison, ça peut être dans les embouteillages et ainsi de suite, mais ça permet au cœur également de rester vivant. Et maintenant, conseil concernant les relations entre les familles. Tes parents sont vivants, c'est une faveur de la part d'Allah. Les parents de ton épouse sont vivants. Le paradis, ça se trouve où? Réponse ou sinon, on fait une soirée bayane. Et chaque minute que je prends, c'est une minute en moins de ta vie de couple. Le paradis se trouve où? Ya Asad, sur les pieds de la maman. Ce soir, tu embrasses les pieds de ta maman. Et tu remercies ta maman pour tout ce qu'elle t'a donné, pour l'éducation. Si tu es là ce soir et tu vas signer ton aqd de nikah, c'est que au-dessus, il y a Allah Azza wa Jal qui te donne ton fils de le faire. Mais à la base, il y a un papa, il y a une maman qui ont été soucieux. Celui ou celle qui t'a amené, qui t'a pris par la main, qui t'a amené à la madrasa quand tu étais en petite section, en grande section, en CP, qui t'ont suivi, qui t'ont permis d'arriver jusque-là. Et pareil pour ton épouse, les parents, c'est l'or. Les parents, ça, c'est la reconnaissance envers les parents, c'est religieux, mais c'est également humain. Donc, le mariage doit nous rapprocher encore plus de nos parents, question de reconnaissance. S'il y a des parents âgés, des grands-parents, et ton grand-père, subhanallah, tout ce qu'il a fait pour la communauté, se rapprocher également des personnes âgées et de deux côtés des personnes âgées. Troisièmement, rendre visite à la famille. Extrêmement important de continuer à rendre visite, de garder ce muhabba au sein de la famille. Le ihsan envers les voisins, je ne sais pas où tu vas habiter, mais fais en sorte que là où tu habites, ta joie de vivre et ta foi rayonne sur tout le quartier, que quand on voit une famille de musulmans, on sent que ce sont des gens qui ont des qualités et qui ont une ouverture et qui ont de l'amour universel à donner et à distribuer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte. Et dernier point, ne jamais oublier que nous travaillons tous pour la Ummah. Qu'on soit comptable, expert comptable, qu'on soit notaire ou clerc de notaire, qu'on soit agent immobilier, qu'on soit professeur, qu'on soit alim avec une grande barbe comme moi ou alors une barbe beaucoup moins grande. Qu'on travaille tous pour la Ummah. Et que notre fikar, c'est faire avancer la Ummah, qu'Allah t'accepte. Wa ma tawfiqi illa billah. Nous réitérons nos doigts, qu'Allah t'accorde beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, beaucoup de protection, et que chaque jour qui passe, chaque jour qui se profile, ce soit un jour rempli de bonheur. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.